Tout le monde a en tête ce qu'est un procès et à quoi il sert. Deux parties qui sont en désaccord soumettent leur litige à la justice en argumentant en droit. Au pénal, un crime a été commis et on demande à un juge et à un jury d'établir les faits et de sanctionner leur auteur. Voilà la version classique que l'on pourrait nommer l'éternel du procès. Enfin, qui semble éternel, parce que l'on a vu ces dernières années les objectifs du procès croître et se multiplier. Commençons par la justice dite transitionnelle, c'est-à-dire en charge d'apurer le passé. Dans les affaires relatives aux crimes contre l'humanité, et notamment la Shoah, chez nous les affaires Barbie-Touvier-Papon, il a été demandé à la justice d'écrire l'histoire, d'honorer la mémoire, de remplir une fonction de reconnaissance de la souffrance des victimes. Et puis, la mondialisation a introduit dans nombre de procès une dimension économique. Les juges doivent tenir compte des conséquences proprement économiques de leurs décisions. Si par exemple ils appliquent la loi française, mais ce faisant ils mettent en péril, voire ils condamnent tout un secteur économique en détruisant des dizaines, voire des centaines de milliers d'emplois dans notre pays, mieux vaut qu'ils y regardent à deux fois. Et ils sont ainsi encouragés à tenir compte aussi du coût de leur décision pour le budget de la nation. Une décision de justice peut coûter des milliards sur le budget de l'État ou celui de la SNCF. Je pense à l'affaire des employés marocains. On a vu apparaître, il y a quelques années, une idée radicalement nouvelle. C'est le rôle des procès dans une stratégie globale de communication, voire de conquête des marchés. Des procès peuvent être intentés dans le but, par exemple, de réduire au silence une association de consommateurs. On a vu, dans le cas de Google Books, une grande entreprise du numérique utiliser des procès comme une arme pour casser les droits de propriété intellectuelle de certains pays, en l'occurrence d'une autre. À vrai dire, la stratégie est encore plus subtile, car la grande entreprise cherchait à allier ses cibles par des transactions qui obligeaient les éditeurs ou les très grandes bibliothèques. Le procès est donc une arme pour forcer à transiger et à contourner son propre droit. Il devient une arme anti-juridique en quelque sorte. Dans un même esprit, mais dans un autre domaine, dans le domaine militaire, les procès deviennent des armes puissantes dans les guerres modernes, notamment dans le conflit israélo-palestinien. On ne compte plus les procès, notamment contre des banques françaises, pour des accusations de complicité de terrorisme et qui mêlent tout, l'économie, le droit, la politique et la guerre. Un général américain a inventé même le concept de « lawfare », qui est une contraction de « warfare », qui en anglais veut dire « les opérations de guerre », et le mot « law » qui veut dire « le droit ». Pourquoi se battre en effet lorsque le droit peut vous apporter sur un tapis vert le même résultat sans combattre? On peut obtenir beaucoup de choses par un procès. On peut notamment dégrader moralement son adversaire en l'accusant de crimes de guerre. Ce fut un peu le cas au procès de Nuremberg à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, où c'était d'ailleurs parfaitement justifié. Et ici, dans le procès, ce que l'on cherche, c'est plutôt la capacité d'accusation de son adversaire. Avec le numérique, on a vu arriver de nouveaux instruments et qui installent ce qu'on appelle un procès augmenté, qui est enrichi de tout un savoir absolument inédit. Par exemple, le procès peut se dérouler sur plusieurs endroits à la fois et les juges peuvent avoir dès le début en main des indications sur ce que serait ou ce que devrait être résultat de leur travail. On est donc très loin du schéma simple que j'énonçais au début. Le travail de la justice est de plus en plus complexe car elle doit prendre en compte de nombreuses dimensions historiques, économiques, géostratégiques, virtuelles et pour lesquelles les juges ne sont pas nécessairement compétents, pas plus que les avocats d'ailleurs. Mais ceci pose une question de fond. Est-il possible d'empiler tant de fonctions supplémentaires au procès sans préjudice pour sa nature même, c'est-à-dire pour la justice ? Parce que ce sont toujours des parties individuelles qui comparaissent, un homme en chair et en os qui risque de perdre un peu de sa vie, de sa liberté, de son honneur ou de sa fortune. Servir deux maîtres, c'est se condamner à en trahir au moins, et peut-être même les deux. En servir trois, c'est augmenter la trahison et éloigner un peu plus les juges de leur mission initiale, qui est de rendre justice à un homme ou à deux parties, et rien d'autre.